Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette première émission de Fracture. Donc nouvelle émission sur Pulsar, émission d'actualité politique, d'histoire sociale, d'approche critique de l'actualité et de l'histoire. Moi je me présente, je suis Daria, ce sera moi qui fera la technique de l'émission. Je suis en compagnie de Emma et Xintia, bonjour à vous.
Bonjour.
Donc, cette émission Fracture, comment est-ce qu'elle va un petit peu se présenter? Donc, on a un temps d'une heure où on va développer un sujet entrecoupé de pauses musicales. On va essayer de le faire à chaque émission, des petites brèves d'actualité, donc des choses qu'on a pu voir dans les journaux ou pas forcément parfois, des choses de l'actualité locale ou parfois de l'actualité nationale ou internationale. On aura aussi, autant que se faire possible, une rubrique livre sur des livres qui peuvent être en lien avec le sujet ou sur l'actualité qui sont interpellantes. Et dans ce format d'émission, on va essayer de faire en sorte que, c'est ce qu'on a prévu nous pour l'instant, d'avoir en fait une émission d'actualité. Donc aujourd'hui, on va commencer par une émission d'actualité. Et l'émission suivante sera plutôt une émission d'histoire, tout du moins d'approche critique de l'histoire sur des événements passés, locaux ou non, de manière à faire dialoguer l'actualité et l'histoire dans cette émission. Sachant que c'est une émission qui est tous les 15 jours, donc la semaine prochaine vous aurez la rediffusion de l'émission précédente, vous aurez la rediffusion de l'émission d'aujourd'hui, et dans 15 jours donc il y aura l'autre émission qui sera l'émission d'actualité. Voilà pour la présentation de cette nouvelle émission Fracture, et je vais laisser la parole à Emma et Xintia pour nous introduire l'émission d'aujourd'hui.
Oui, merci Daria. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes qui fait toujours l'actualité depuis 4 mois avec ses occupations de rond-point et ses manifestations traditionnelles du samedi. Alors aujourd'hui, on va revenir sur les différentes caractéristiques de ce mouvement, ses composantes et en quoi en fait ils éclairent la période actuelle tant au niveau économique et politique que social. Moi, j'essaierai tout au long de l'émission de venir un peu agrémenter cette analyse avec des exemples locaux, donc de particulièrement de Poitiers, mais un petit peu aussi des alentours. Voilà, donc je propose qu'on commence avec Emma, donc sur quelles sont un peu les caractéristiques, les composantes de ce mouvement, sa naissance et un petit peu son implantation.
Oui, donc le mouvement des Gilets jaunes est apparu en milieu rural et périurbain, donc dans des zones qui se mobilisent peu d'ordinaire et qui sont en pleine déliquescence avec la disparition des lignes de chemin de fer et des services publics, la multiplication des déserts médicaux, la pénurie d'emplois, enfin c'est une situation de plus en plus catastrophique. Dans ces zones, l'automobile est devenue la condition sine qua non pour toutes les activités de la vie quotidienne, hein, le travail, l'école, les loisirs de la famille, tout passe par là. Et de ce fait, les dépenses en carburant pèsent lourd sur le budget de nombreux ménages. Et c'est pourquoi l'annonce par le gouvernement à la rentrée d'une nouvelle hausse du gasoil a mis le feu aux poudres dès le 17 novembre avec la première manifestation des samedis qui est devenue traditionnelle là, depuis 4 mois. Alors les Gilets jaunes, ils dénoncent une dégradation de leur pouvoir d'achat, mais plus largement de leurs conditions de travail et même d'existence. Et cette dégradation est liée aux politiques d'austérité et d'aménagement du territoire qui ont été menées depuis 4 décennies par les gouvernements, de droite comme de gauche, on y reviendra. Le profil des Gilets jaunes a surpris pas mal, d'une part parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce mouvement et qu'elles sont plus visibles et dynamiques que dans pas mal d'autres mobilisations, hormis les manifestations écolo, où en général la proportion de femmes est plus importante qu'ailleurs. Et d'autre part, ça a surpris parce que le nombre de Gilets jaunes n'avait en fait jusque-là pas participé à des actions militantes, et ça, quel que soit leur âge. On nous dit que la plupart refusent de se positionner selon l'axe droite-gauche. Et d'après une enquête sociologique qui a été faite par Chloé Le Prince et qui est citée sur France Culture le 11 décembre, sur 166 personnes interrogées, 47% se mobilisaient pour la première fois et 44% n'avaient jamais fait grève. Mais en fait, c'est pas très différent du reste de la société, puisque d'après les sondages, la moitié de la population française s'intéresse peu, assez peu ou pas du tout à la politique.
Oui, et aussi, je voulais rajouter qu'il y a aussi beaucoup de retraités, ce qui a notamment permis de tenir autant les ronds-points, notamment en semaine, en fait. Donc, je trouvais ça important de le signaler aussi. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la composition sociale des Gilets jaunes, elle est aussi originale qu'on a pu le dire ? Je pense notamment au fait qu'au début du mouvement, on a beaucoup entendu que ça serait une espèce de mélange paradoxal entre à la fois des petits patrons, donc commerçants et artisans, et des prolétaires. Et on a aussi entendu dire des choses comme en fait, c'est juste des beaufs en 4x4 qui sont intéressés que par le prix du gasoil. Donc peut-être tu peux nous en dire un peu plus là-dessus.
Mais en fait, la classe politique et les médias ont comparé les Gilets jaunes au mouvement Poujade. Il y a eu plein d'articles de très chiadés, on va dire, qui disaient que c'était du populisme. On y a vu l'émanation de l'extrême droite. Enfin, il y a eu énormément d'approches critiques. Les syndicats également ont critiqué ce mouvement pour son interclassisme. Ils se méfient toujours des mobilisations qu'ils ne contrôlent pas. C'est pas très étonnant. Mais en fait, l'abandon par le gouvernement de l'augmentation de la taxe carbone n'a pas calmé les Gilets jaunes. Donc, ils et elles ne correspondent pas à cette image de bof anti-écolo qu'on donnait d'eux et d'elles. Et de plus, avec les blocages des ronds-points et les fêtes de fin d'année, les commerçants sont en général devenus hostiles au mouvement. Donc, ils sont plutôt hors de ce mouvement.
Oui, et en plus, sur cette image anti-écolo, c'est important de rappeler que la plupart des collectifs Gilets jaunes, donc notamment celui de Poitiers, ont toujours appelé à rejoindre les marches sur le climat. Hein. Il y en a eu pas mal ces derniers temps. Il y a même eu une action estampillée écolo où il s'agissait de ramasser des déchets le long de la rocade. D'ailleurs, ça énerve aussi pas mal de gilets jaunes. Et nous les premières, hein, parce qu'on ne l'a pas dit, mais on est partie prenante de ce mouvement. Je trouve que c'est important de le rappeler. Des gilets jaunes qui s'énervent et s'exaspèrent un petit peu de voir que effectivement il y a un appel à rejoindre ce type de manifestation, mais que le retour est pas forcément vrai, quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage. Et aussi je voulais rajouter par rapport aux commerçants, clairement les commerçants sont pas du tout du côté des gilets jaunes. On l'a bien vu à Poitiers Sud notamment, où il y a eu donc il y a régulièrement le rond-point qui est bloqué, et en fait il y a même un jour où quasiment tous les commerçants de la galerie de Poitiers Sud en fait se sont pointés, avaient convoqué la presse et s'en est suivi des discussions un peu compliquées entre gilets jaunes et commerçants. Donc clairement les commerçants sont pas de notre côté, et les gilets jaunes qui ont pu ou qui peuvent encore avoir des discours un peu ambigus par rapport à ça aussi, sur il y aurait des bons commerçants, des mauvais commerçants, des grands groupes à boycotter, d'autres non, etc. En fait, de la même manière, on voit que en fait non, il y a les grands groupes, ils sont attaqués à travers certaines revendications, mais aussi au niveau des actions. Je pense à Châtellerault, où il y a eu une manif où le Leclerc a été envahi, et on entendait le principal slogan qui était scandé, c'était anti-anticapitaliste. Donc ça illustre bien ça quand même.
Et dans les milieux militants d'extrême gauche, au début, on a aussi beaucoup débattu sur les Gilets jaunes pour déterminer si leur mouvement était politiquement correct. Donc en fait, s'il fallait le défendre, le soutenir, y participer. Une partie des militants d'extrême gauche et des libertaires s'est investi dedans assez vite. Et des sections syndicales aussi ont pris des initiatives pour favoriser la convergence des luttes sociales, parce qu'on s'est rapidement aperçu que la base des Gilets jaunes était très prolétarienne. En majorité, ce sont des personnes en activité, mais qui ont un revenu inférieur au revenu médian, qui est de 2 500 € pour un couple. On trouve beaucoup d'ouvriers, d'employés, de retraités, comme tu as dit, de petits artisans, d'infirmiers, de professeurs des écoles. Et ce sont des personnes qui appartiennent à la fraction inférieure des classes moyennes, ou encore à des milieux encore plus démunis en étant chômeurs ou précaires. Et Très vite, les Gilets jaunes ont avancé des revendications classiquement sociales, hein, qui sont liées au pouvoir d'achat, en demandant une hausse des bas salaires, des petites pensions, des minima sociaux, donc en fait, en demandant un meilleur partage des richesses.
Oui. Et pour terminer, là aussi, sur la qui compose ce mouvement, je voulais revenir sur l'extrême droite, parce que, du coup, on peut se demander si, à quel point elle a joué un rôle, en fait, dans la mobilisation des Gilets jaunes. Bon, alors déjà, clairement, elle est très très présente, elle l'a été, elle est encore sur les réseaux sociaux. Après, ça va dépendre aussi beaucoup des endroits et des localités. Par exemple, à certains endroits où de toute façon l'extrême droite est déjà très présente sur le terrain, elle est présente de fait dans le mouvement des Gilets jaunes. Je pense à des villes comme Lyon ou Strasbourg. Mais à d'autres, elle s'est fait aussi carrément virer, par exemple, comme à Bordeaux. Donc finalement... voilà, c'est compliqué d'avoir aussi une vue d'ensemble. Moi, je sais qu'à Poitiers, elle est de moins en moins présente, assez peu. Alors, il y a toujours la présence de symboles qui sont clairement estampillés de droite, comme la Marseillaise et les drapeaux tricolores. Mais en tout cas, dans les AG, je pense que non. On peut dire qu'elle est peu présente, ou en tout cas, elle n'a pas tellement... manière d'exister ou de manière anecdotique, quoi.
Oui, si je peux me permettre d'intervenir en fait sur la question effectivement de la diabolisation qu'il y a pu avoir sur la présence de l'extrême droite dans le mouvement, qui est réel, malheureusement, on peut pas le nier. C'est en fait Pascal Bruckner, un penseur dit nouveau, enfin qui fait partie du mouvement des nouveaux philosophes, qui en fait lundi soir, lors du dernier grand débat organisé par Emmanuel Macron avec les intellectuels, les grands intellectuels de France, donc lors de l'ouverture de ce débat, ce monsieur a déclaré clairement qu'il y avait un complexe anarcho-fasciste. Donc là, clairement, lui, en plus, il relie les deux extrêmes qu'on a souvent l'habitude d'associer, donc l'extrême droite et l'extrême gauche, où clairement, lui, il menace, enfin, il dit qu'il lui, il voit un grave danger pour la démocratie telle qu'elle est présente. Donc il y a vraiment effectivement de la part de certains médias, de certaines approches, une diabolisation du mouvement en le qualifiant sans vraiment de distinction que ce sont des gens d'extrême droite, alors que ce n'est pas le cas.
Pas toujours le cas.
Tout à fait, ce n'est pas toujours le cas, ni partout, ni tout le temps.
Sur la question de l'immigration, on nous assure qu'une majorité des Gilets jaunes trouvent qu'il y a trop d'immigration en France. Mais en fait, d'une part, on obtient le même résultat quand on interroge l'ensemble de la population française. Il y a un sondage IFOP qui a été fait pour le JDD le 1er décembre et qui faisait ressortir ça. Et d'autre part, le racisme est largement entretenu en France par la politique de l'État concernant les migrants et les personnes issues de l'immigration africaine dans les banlieues. De même, sur les attitudes sexistes, homophobes, machistes, ou encore sur le chauvinisme, malheureusement, ce ne sont pas l'apanage des Gilets jaunes. Hein. On retrouve en fait, chez les Gilets jaunes, on peut dire, une variété d'opinions et des contradictions qui sont fréquentes dans les classes populaires. Bon. Qu'à voir à la CGT ou au PC. Voilà. Mais néanmoins, on peut dire qu'il y a une revendication qui émane de l'extrême droite et qui est assez répandue dans leur rang, et c'est le référendum d'initiative citoyenne, le RIC.
Ouais, le RIC, qui est d'ailleurs aussi repris par la France Insoumise. Le RIC, c'est un peu... Ouais, le gouvernement l'a laissé miroiter comme une possibilité. Alors qu'en fait, c'est une récupération de l'État sur une demande de réappropriation de démocratie, et du coup, effectivement, qui touche peut-être les Gilets jaunes qui sont le plus sensibles aux arguments citoyennistes. Alors le RIC, il fait pas du tout consensus parmi les Gilets jaunes. À Poitiers, on en parle assez peu, finalement. Et de toute manière, certains gilets jaunes qui peuvent le porter comme revendication, ça ne les empêche pas de participer au mouvement et d'avoir d'autres revendications. Alors ça nous est vendu comme un outil démocratique qui serait là pour corriger une mauvaise gestion étatique. Bon, est-ce qu'on a envie de faire confiance à un outil qui s'inscrirait dans le cadre de cette même démocratie bourgeoise capitaliste qu'on critique? Je ne suis pas sûre. Et puis, de toute façon, voilà, c'est comme tous les autres types de scrutin. À un moment donné, je pense qu'on je continue d'y croire malgré toutes les désillusions que ça apporte. Voilà, je ne sais pas si...
Oui, d'autant ouais. plus que sur la question du RICT, en fait, c'est qui va pouvoir porter ces initiatives dites citoyennes. C'est-à-dire, bah, est-ce que c'est nous, en tant que citoyens, qui vont pouvoir mener des campagnes pour pouvoir mener... Non, ça paraît compliqué. Et effectivement, ce sont, une fois de plus, les grandes structures, partis, syndicats, grandes associations qui vont récupérer cette initiative-là. Donc, en fait, la question vraiment de la réappropriation par les individus de cette forme de la politique, elle laisse quand même à désirer au vu des moyens qu'il faut déployer pour pouvoir mettre en œuvre ces référendums. Donc c'est...
Ouais, surtout que ça peut être un biais, comme le grand débat l'a été, enfin, ou a été tenté de l'être, de casser le mouvement et voilà, de le casser, quoi. Et alors surtout qu'en termes de réappropriation de la démocratie, en fait, elle se fait déjà, du coup, à l'intérieur même du mouvement et de son mode d'organisation. Du coup, les Gilets jaunes, donc, au départ, se sont organisés sur les réseaux sociaux, donc surtout sur des bases familiales et amicales. Et après, sur l'occupation des ronds-points, en fait, ça s'est fait notamment par affinité politique, mais aussi par affinité stratégique, selon les différents rapports à la police, etc. Mais en fait, assez vite, y a eu une volonté en fait de se coordonner entre ronds-points. Alors là, je vais surtout parler donc de Poitiers, hein, c'est l'exemple qu'on connaît le mieux nous. Et en fait, avec une organisation d'AG régulière, hebdomadaire. Donc là, pour ce qui concerne Poitiers, c'est tous les vendredis à l'auberge de jeunesse à partir de 18h, 18h30. Je vais vous dire vite même à y aller juste après l'émission. Et en fait, il y a une réelle volonté de s'organiser en démocratie directe, c'est-à-dire que il y a depuis le début, il y a une volonté qu'il n'y ait pas de chef, que les décisions soient prises de manière horizontale. Du coup, il y a un système de commission qui est mis en place, donc la commission action, revendication, communication juridique, etc. Et voilà, bon, évidemment, comme tout mouvement, il y a des limites à ça. Hein, et c'est compliqué qu'il n'y ait pas de leader, de prise de pouvoir. Des fois, les débats avancent lentement. C'est aussi des outils. Et on l'a dit tout à l'heure, les Gilets jaunes sont aussi majoritairement des personnes qu'on peut militer dans leur vie, qui n'ont peut-être même jamais fait grève. Et en fait, la réappropriation de ces outils, elle prend du temps. Et de l'énergie. Et voilà. Donc, et aussi, juste quand même, il y a aussi, je voulais rajouter, il y a une volonté de se coordonner entre groupes, donc au niveau de Poitiers des alentours, au niveau régional. Et même, il y a eu une assemblée des assemblées à Commercy, hein, donc avec des porte-paroles de chaque assemblée qui se sont réunies ensemble. Et il y en a une autre qui est prévue tout début avril, premier week-end d'avril à Saint-Nazaire. Voilà.
Oui. Évidemment, il faut que ce mouvement ces gens qui n'ont pas l'habitude de fonctionner d'un point de vue militant et tout ça, s'organisent. C'est pas très évident parce que c'est un mouvement très décentralisé. C'est lié à leur vécu, hein, l'ancrage dans certains territoires, mais c'est aussi par choix parce qu'il y a cette peur effectivement d'une récupération politicienne. Chez les Gilets jaunes, il y a beaucoup de méfiance à juste titre par rapport aux partis, aux syndicats et à l'État. Et c'est pourquoi les chefs Gilets jaunes, là, tous ces gens qui s'autoproclament chefs Gilets jaunes avec l'aide des médias, en fait, ils jouent quasiment aucun rôle et ils sont contestés dès qu'ils ou elles prennent des initiatives, en particulier pour présenter une liste aux élections européennes. Et de ce fait, le gouvernement ne parvient pas à avoir d'interlocuteur avec qui négocier l'arrêt du mouvement, ce qui l'embête bien.